Bonjour. Cote à tout prix. Dans les milieux universitaires, il faut absolument réussir, passer son examen. Un phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans certains milieux universitaires, les notes sexuellement transmissibles. La pratique consiste à octroyer des points à certaines étudiantes qui acceptent d'avoir des relations sexuelles avec quelques professeurs. Les milieux universitaires deviennent ainsi des lieux de prostitution et de propagation du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles. Sur un autre chapitre, développement, à Ouvira, deux ponçons en cours de réhabilitation. Les travaux ont démarré depuis vendredi 11 février. Ces travaux sont financés par deux bailleurs de fonds, OCHA, le Bureau de coordination des actions humanitaires, et ECHO, le service humanitaire de la communauté européenne. C'est l'ONG Acted qui exécute les travaux. La fin désenclavera Ouvira. Qui va organiser les élections en République démocratique du Congo? C'est la Commission électorale indépendante. Un peu plus en profondeur, quel est son rôle? On le fera aujourd'hui à partir de 10h03, heure de Kinshasa. Il faut mettre en application le code forestier congolais et pour cela tous les partenaires sont appelés à s'y impliquer, notamment les pygmées et les associations qui travaillent, qui accompagnent les populations autochtones. Un atelier se fait dans ce sens à Goma, au Nord Kivu. Des réactions, des suggestions, il faut nous les envoyer au 081 890 63 94. Ou si vous nous suivez de par le monde, faites un message à action@radiookapi.net. Willem Lungamba fait la mise en onde, de Nathalie Mouteba fait la régie. Merci d'être nous ensemble avec nous. C'est parti pour 2 heures de vie à travers vos vies par la radio.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Le mérite n'est plus le seul critère pour passer de classe. Le sexe l'est aussi. Il suffit à une étudiante qu'il veut de coucher avec un professeur pour obtenir de meilleures cotes et passer de promotion. Cela s'appelle NST, attendez, notes sexuellement transmissibles. Nous en parlons avec Jody Kachama qui est en studio. Bonjour Jody.
Bonjour Walter.
Il faut dire que nous aurons comme invité, nous aurons en principe deux invités. D'abord le vice-ministre en enseignement supérieur et universitaire,
Jérôme Kamate,
qui a déjà soulevé la question lors d'une réunion devant les chefs d'établissement supérieur et universitaire.
Tout à fait.
Mais aussi un professeur qui a eu le courage de briser les silences sur ce fameux phénomène, le professeur Kamanga Manga, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Cote à tout prix » à Lubumbashi. Il avait même été convoqué par un comité administratif pour... Enfin, il nous le dira tout à l'heure. Mais avec vous, Jody Kachama, ce qu'on voudrait savoir, les notes sexuellement transmissibles, NST, comment est-ce qu'on peut expliquer la survenance de ce phénomène?
Ben, vous savez, Walter, que la crise socio-économique dans notre pays touche tous les secteurs de la vie nationale, en particulier notre système éducatif. Alors, celui-ci est presque malade, d'après certains observateurs. Alors, pendant la période des délibérations dans les universités et instituts supérieurs, on assiste à plusieurs dérapages. En plus du mérite de l'étudiant ou de l'étudiante, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Il y a par exemple le coterie, parce que tel professeur est de votre tribu, alors il donne des cotes à des étudiants qui sont de la même tribu que lui. Donc, il y a aussi c'est quoi, le trafic d'influence, il y a le monnayage des cotes et la sexualisation de points dont on parle aujourd'hui. Donc, les notes sexuellement transmissibles. Alors, c'est un instrument de chantage que certains professeurs utilisent pour assouvir leur libido. Donc, vous voulez passer des classes, eh bien, tout se règle dans un lit d'hôtel et puis le professeur vous donne des meilleures cotes.
Et comment c'est réparti selon vos enquêtes?
Ben, selon ce que nous avons appris, 7 sur 20 pour les relations sexuelles sans préservatif et 12 sur 20 pour les relations sexuelles avec préservatif.
Ah, il faut atténuer un peu parce que ce serait grave de dire, pour nous, de dire des choses aussi terribles, aussi exécrables, sans avoir des preuves. C'est des terribles réalités. Y a-t-il des témoignages que vous avez pu recueillir pendant vos enquêtes, Jody Kachama?
Tout à fait, nous avons recueilli les témoignages d'une étudiante de l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, qui, cette étudiante, a subi des harcèlements de la part de certains professeurs. Écoutons.
D'abord, en première, il y avait un prof qui m'avait d'abord dérangé pour passer en deuxième, mais pour passer en deuxième session. Et moi, j'avais refusé. Et j'étais allée voir un autre prof pour lui parler de ça. Et l'autre prof m'avait vraiment aidé. Et je suis aussi allée voir une dame. Et la dame en question m'a aidé. C'est pour ça que j'étais passée sans pourtant passer par d'autres chemins.
Et tu connais des amis à qui les professeurs arrivaient exiger de coucher avec eux pour avoir les notes?
Oui, je connais. Bon, ils ont couché. Bon, depuis la première, ils ont commencé à coucher avec ces profs-là au moment où je vous parle. Ils sont maintenant en troisième parce que moi, j'ai repris la deuxième pour seulement ces histoires. Ils ont couché avec ces profs depuis la première. Elles sont passées en première session. En deuxième, c'était la même chose. Et en troisième, elles sont maintenant en troisième au moment où je vous parle. Et moi, en deuxième, je n'ai pas voulu. Je préférais reprendre l'année parce que j'avais deux cases vides. Et le prof me demandait d'aller leur chercher vers 21h, 22h. Ça ne pouvait pas quand même marcher. J'avais refusé. Je lui ai dit non, j'accepterais de reprendre l'année au lieu de faire de bêtises.
Et est-ce que tu penses que c'est là et que ça s'est fait souvent dans les universités?
Dans d'autres universités, je ne sais pas. Là, pour moi, je ne sais pas. Mais chez nous, c'est vraiment un sujet à la une. Quand tu couches avec un prof, tu passes tes classes. Et tu passes en première session.
Ah.
Ouais.
Et si tu refuses?
Ils vont commencer à t'emmerder à tout moment pour que tu acceptes. Et bon, moi, au moment où je suis trop dure avec eux, c'est parce qu'il a... Vous vous imaginez que je reprenne l'année avec 58% et deux cases vides. Donc, vous comprenez quand même.
Sans commentaire. Dodi, c'est terrible hein, comme témoignage. Oui. C'est une personne qui a pris ce courage de briser le mur de silence sur ce scandale. Il y a des autorités qui nous entendent, il y a des parents qui nous écoutent. Est-ce que vous avez eu le temps peut-être de poser la question ou de soumettre cette problématique à certains parents et quelles ont été leurs réactions?
Mais vous savez que c'est une situation qui ne peut pas réjouir les parents qui envoient leurs enfants dans les universités pour étudier et non pour servir de cobaye d'expérimentation sexuelle, pour reprendre l'expression d'un confrère. Alors écoutons la réaction d'un parent.
Parce que si l'enfant ne se livre pas, il risque d'être de redoubler sa classe ou de refaire sa classe parce qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre du professeur ou il n'a pas respecté ce que le professeur lui a demandé.
Est-ce que vous avez des enfants au niveau de l'université?
Effectivement.
Ils ont déjà subi cette situation?
Ah oui, même si c'est généralement ce que nous connaissons, hein. Nous suivons tout ce qui se passe à l'université avec les enfants. Hein. Nous suivons. Et ce n'est pas le hasard, je l'ai dit en connaissance de cause. Hein. D'abord, c'est une chose de conscience. C'est d'abord la conscience, il faut interpréter la conscience du professeur. Les enfants sont envoyés aux études et non pour se livrer à n'importe quelle aventure. C'est pour aller étudier.
Ce qu'on voudrait savoir, Jody, on a pris le cas et les témoins de tout à l'heure, qui ne sait pas si ça se passe dans d'autres universités, et c'était honnête de sa part parce qu'elle ne connaît que la situation de son école. Est-ce que pendant les enquêtes que vous avez effectuées, ça vous a-t-il permis peut-être de savoir si oui ou non le phénomène se vit dans d'autres universités à part l'école qu'on a citée tout à l'heure?
Ben, vous savez Walter, il n'y a pas encore eu des études pour déterminer l'ampleur de cette situation à travers les universités de Kinshasa ou d'ailleurs. Certaines personnes pensent qu'on est en train de dramatiser un peu ce problème. Ça peut être des cas isolés, des professeurs immoraux qu'on veut généraliser. Donc c'est ce qu'affirme par exemple ce monsieur qui vient de terminer ses études supérieures.
Avant de condamner cette pratique, j'estime pour ma part qu'on est quelque peu dramaturge. Peut-être qu'il y a eu un cas isolé qu'on a pris pour des exemples d'écoles et qu'on généralise. Mais si ce cas pouvait exister, s'il en existe, j'en ai connu évidemment, je crois qu'il est condamnable. Je connais un professeur, père son âme, il est décédé, qui parfois, quand les filles venaient chez elles, parce que sont celles-là surtout faibles intellectuellement, qui viennent chez le professeur avec cette arme-là que Dieu leur a donnée, je ne vais pas citer les mots, pour obtenir les points. Et lui étant tombé dans le piège, il exigeait de faire et de faire et de donner les points selon le nombre de fois qu'il aura fait. Le professeur en tant qu'éducateur, qui est devant un élève, évidemment sa responsabilité est plus engagée. Mais l'étudiant aussi, parce qu'il est majeur, sa responsabilité est également engagée. Et je dirais en définitive que la responsabilité est partagée.
Responsabilité partagée parce qu'ils sont tous majeurs à ce niveau, au niveau universitaire, c'est vrai. Mais dans cette affaire, ce sont certains professeurs qui sont pointés du doigt, qui font du monnayage de côte. Vous avez cité l'expression d'un confrère, la sexualisation, n'est-ce pas, des points. Est-ce que vous avez pu rencontrer des professeurs pour aborder la question avec eux, ne serait-ce qu'un prof qui reconnaît que la pratique existe?
Ben oui, j'ai parlé de cette question avec un professeur d'université qui reconnaît que cette pratique existe parmi tant d'autres problèmes qui touchent notre système éducatif. Écoutons-le.
Notre système éducatif a un certain nombre de difficultés. Disons, c'est un système malade. Et je crois que si cette pratique, puisque la rumeur dit qu'elle existe, et je dois l'avouer, je l'ai entendue, même si je ne l'ai pas encore vérifiée personnellement, mais je peux faire confiance qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et je constate que c'est un des nombreux aspects de la maladie de notre système. Évidemment, d'abord ici, comme scientifique, je crois qu'on peut aussi prendre la mesure du phénomène, essayer un peu d'enquêter pour quantifier un peu, disons, la prééminence de ce phénomène dans tous nos établissements.
Certaines étudiantes aussi ont un habillement qui laisse à désirer et qui pousse parfois les enseignants à cela.
C'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas seulement dans l'habillement, parce qu'il y a un phénomène nouveau d'habillement que certains établissements essaient d'interdire. Certaines blouses ou certaines formes d'habillement des jeunes filles où le nombril est dehors, où une des épaules n'est pas couverte. Ce sont des habillements provocateurs, c'est vrai. Mais au-delà, je crois que c'est dans les mœurs, dans les comportements qu'il faut s'installer pour trouver la source de ces mauvais comportements. C'est parce que des hommes n'ont plus de retenue. Un enseignant devrait mettre à l'avant-plan son caractère de parent d'abord ou d'aîné pour ne pas compter sur la faiblesse du plus faible pour l'inciter à la débauche de cette manière-là, je crois.
Voilà un enseignant qui donne son point de vue par rapport au phénomène. Jody Keshama, y a-t-il quelque chose qui est fait au niveau du ministère des tutelles, à savoir le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, en vue d'éradiquer le phénomène des codes sexuellement transmissibles?
Ben, vous savez, au cours d'une cérémonie de présentation du nouveau programme des cours à l'université, le vice-ministre de l'enseignement, Jérôme Kamaté, avait soulevé ce problème qui avait suscité un gêne parmi les chefs d'établissement réunis dernièrement au centre Nganda. Donc, il a été décidé de la mise en place, de la mise sur pied d'une commission composée des professeurs, étudiants et parents pour trouver des voies et moyens pour éradiquer ce phénomène. Mais depuis, on n'a pas encore des suites, on ne sait pas encore si cette commission est déjà opérationnelle.
Jody Keshama, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Walter.
En FM, sur Internet, par satellite, Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Bien voilà, nous avons en ligne le professeur Kamangamanga depuis Lubumbashi. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je suis Walter Mulondi. Vous êtes enseignant, vous êtes praticien de la médecine aussi, mais ce qui a fait parler de vous il y a quelques mois, quelques semaines, c'est la publication d'un ouvrage signé de votre main, Côte à tout prix. Cet ouvrage a soulevé un tollé dans le milieu universitaire. Et quelle était l'intention pour vous de publier cet ouvrage?
Je tenais, en publiant cet ouvrage, de marquer un point d'arrêt
dans la chute de l'université, disons la descente vers les enfers de notre université en ce qui concerne son système de cotation, son système de délibération, son système d'appréciation des étudiants.
Mais alors, selon vous, quel est ce système? Comment est-il? Qu'est-ce que vous le décrivez? De quelle façon le décrivez-vous, au fait?
Et ce système, tout le monde le sait. Et tout le monde le dit. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit que ce que je dis dans mon livre, c'est la vérité. Mais personne n'ose le dire sur la place publique. Tous les enseignants de l'université le disent en privé. Mais ils ne veulent pas prendre des risques pour le dire sur la place publique. Tout le monde sait qu'il y a la corruption à l'université. Tout le monde sait qu'il y a le trafic d'influence à l'université. Mais sur la place publique, ils ont peur d'être sanctionnés. D'ailleurs, j'ai été sanctionné et je suis toujours sanctionné. Ils ont raison d'avoir peur, mais je crois que si nous voulons construire le pays, il faut dépasser la peur, il faut aller au-delà de la peur.
Disons un mot sur la sanction qui vous frappe maintenant avant d'entrer en plus en détail. Il y a une commission qui avait été mise sur pied pour statuer sur votre cas. Il a été décidé de faire quoi? De vous empêcher, de vous interdire d'enseigner jusque quand?
J'ai été suspendu et la suspension court toujours. D'après le règlement organique de l'université, cette suspension peut être levée par le ministre. C'est le ministre qui est l'autorité de tutelle de l'université. Et c'est lui qui peut lever cette suspension. D'ailleurs, d'après le règlement, la suspension rectorale ne peut courir que pendant 3 mois, pas au-delà.
Et ça fait combien de temps que vous êtes suspendu, professeur Kamangamanga?
Depuis le mois d'août 2004.
Est-ce que vous avez fait peut-être un recours au niveau de votre autorité de tutelle pour soumettre le problème, votre problème, et voir dans quelle mesure ça pouvait lever cette suspension?
J'ai écrit une lettre au ministère, j'ai envoyé mon dossier au ministère, mais comme vous connaissez les ministères, vous êtes à Kinshasa, c'est un véritable labyrinthe, c'est une sorte de sac de Pandore. Hein. Les gens qui viennent de là disent que mon dossier n'y est pas. Donc, de toutes les façons, c'est un complot. Il s'agit d'un complot et je laisse aller. Et le temps qui finit toujours par tout régler finira par triompher de cette adversité.
Et en attendant que vous soyez réhabilité à reprendre le prétoire dans les auditoires, qu'est-ce que vous faites actuellement?
Pour le moment, j'ai toujours des médecins stagiaires que j'encadre à l'hôpital parce que je suis là à l'hôpital et qui va les encadrer si je ne les encadre pas? Donc je continue à encadrer les médecins stagiaires, je continue à encadrer les assistants en formation, donc les médecins en formation de spécialistes. Ça c'est le travail que je continue de faire sur le plan académique. Mais pour le reste, j'exerce la médecine. Mais du côté de la faculté de médecine, je ne passe pas à la faculté de médecine.
Il faut dire que aux auditeurs que vous êtes gynécologue, mais parlons du problème. Les cotes à tout prix, dans cette catégorie-là, il y a les cotes sexuellement transmissibles. Est-ce que vous épinglez le problème dans votre ouvrage?
Je n'ai pas parlé de ce problème-là précis dans mon ouvrage. Dans mon ouvrage, j'ai parlé de l'immoralité du corps académique.
En quoi?
De l'immoralité du corps académique. Et en parlant de l'immoralité du corps académique, je suppose que tout bon entendeur peut comprendre ce qui est sous-entendu sous le terme immoralité. Parce que si le corps académique est immoral, il peut aller très loin avec les étudiants, avec les étudiantes. Et donc, on m'a reproché d'avoir diffamé l'université. Et moi, pourtant, en écrivant mon livre, j'ai essayé quand même de garder un peu certaines limites dans ce que je disais. Je parlais de l'immoralité du corps académique. J'en ai parlé même dans 2 chapitres. Et en parlant de l'immoralité du corps académique, je sous-entends ces problèmes-là. Parce que quand le corps académique est immoral, il va certainement exercer des pressions sur les étudiants et sur les étudiantes. Les étudiants paient de l'argent, mais les étudiantes vont subir d'autres types de pressions. C'est sous-entendu.
Est-ce que vous confirmez, vous voulez nous dire qu'en parlant immoralité, vous avez sous-entendu notamment les codes sexuellement transmissibles?
Bien entendu, puisque c'est quelque chose qui existe sur dans les milieux universitaires. Attends. Parce que d'ailleurs, avant l'apparition de mon livre, dans le séminaire qui avait été organisé à la faculté de médecine, les côtes sexuellement transmissibles, l'expression est sortie de la bouche même du secrétaire général académique avant que mon livre paraisse. Hein? Il en a parlé au cours de ce séminaire qui avait eu lieu à la faculté de médecine. Donc, c'est une chose connue des milieux universitaires. Mais moi, en écrivant le livre, un livre, c'est un document, il reste, il demeure. Il y a quand même de ces choses qui sont tellement honteuses, tellement... disons, c'est une telle turpitude que je ne voulais pas vraiment parler de ces choses-là dans mon livre. Mais en parlant de l'immoralité, l'immoralité suppose tous ces dérapages-là. Moi, je crois que quelqu'un qui réfléchit bien doit comprendre que c'est inclus là-dedans.
Professeur, ceci va être ma dernière question. Nous parlons des codes sexuellement transmissibles. Il y a entre les codes sexuellement transmissibles et les IST, hein, des infections sexuellement transmissibles, il n'y a qu'un pas, professeur.
Effectivement, les risques sont énormes. Et je peux vous dire, monsieur le journaliste, que c'est un drame. Parce que je continue toujours à mener mes enquêtes. Et les enquêtes que je mène montrent que les étudiantes à l'université sont parfois soumises, certaines étudiantes, à une véritable persécution. Elles sont vraiment persécutées. Il y a des étudiantes à qui on raconte que leur dossier est incomplet, alors que c'est faux. C'est pour pouvoir les orienter vers certains professeurs qui vont abuser d'elles. Ou bien, on raconte à ces étudiantes-là que leur copies d'examen se sont égarées. Tout cela, ce ne sont que des mensonges qui sont montés par ces gens-là pour pouvoir faire pression sur les étudiantes pour pouvoir les faire céder.
Voilà.
J'ai des cas que j'ai vus, que j'ai suivis, qui ont subi cette pression, qui ont subi cette persécution, et ce n'est pas faux. Réellement, il y a des étudiantes même qui abandonnent l'enseignement supérieur à cause de cette persécution.
Professeur Kamangamanga, je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Côte à tout prix ». Vous êtes médecin. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes encore suspendu pour avoir écrit ce livre. Merci beaucoup et plein courage pour peut-être que d'ici là, vous serez réhabilité dans vos fonctions d'enseignant. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Okapi.
Un seul pays, une seule radio. Okapi.
Et voilà, vous venez de suivre les explications un peu plus en détail de l'auteur d'un ouvrage qui a jeté le tollé dans la mare, Côte à tout prix dans les milieux universitaires, le professeur Kamangamanga qui croupit encore sous une suspension rectorale, qui selon le professeur Kamangamanga, citant l'organisation de l'enseignement, ne pouvait pas aller au-delà de 3 mois. Mais malheureusement, depuis août 2004, le prof Kamangamanga ne peut pas encore enseigner. Nous poursuivons le dossier, cette fois-ci avec le vice-ministre à l'enseignement supérieur et universitaire, monsieur Jérôme Kamaté, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup d'être encore disponible aujourd'hui, malgré vos nombreuses occupations. Nous savons, vous devez vous rendre à une réunion. Monsieur le vice-ministre, vous avez soulevé au cours de la cérémonie de présentation de nouveaux programmes, des cours à l'université, cette question, le problème d'une immoralité dans le milieu universitaire, et ça a créé un gêne parmi les chefs d'établissement. Il avait été décidé qu'une commission serait mise sur pied en vue de statuer sur la question. Où est-ce qu'on en est avec cette commission?
Ah, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, notre gouvernement, en fait, les structures de la République sont instituées de sorte que à part les gouvernements, on nous a joint des institutions d'appui à la démocratie. Et comme au niveau du gouvernement, on n'évolue pas dans un vase clos, nous avons voulu évoluer avec cette idée, avec nos amis de la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. C'est ainsi que je crois que notre idée a fait vraiment son chemin et nous sommes en train de préparer un partenariat que nous allons signer très prochainement. L'idée, le contenu de ces partenariats est déjà mis sur pied et que très prochainement nous allons le signer avec la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption.
Monsieur le vice-ministre, en soulevant cette question, quels sont les problèmes précis contre lesquels vous vouliez lutter?
Au fait, fait, comme je l'avais dit, c'est nous voulons lutter contre la dépassion des mœurs au niveau de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Et dans les travaux que nous sommes en train de faire avec nos amis de la commission d'éthique et de la lutte contre la corruption, nous avons subdivisé les travaux à trois points. Et le premier point, c'est la sensibilisation. Nous allons axer notre effort sur la sensibilisation. Le deuxième point que nous avons épinglé, c'est la prévention. Et le troisième point, c'est la répression par rapport à cette dépravation, à cette immoralité qui a élu domicile dans nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Si vous voulez, je peux vous expliquer, vous expliciter.
La prévention, ça consisterait à quoi?
Allô, je ne vous suis pas très bien, monsieur le journaliste.
Vous dites à deux étapes, prévention et répression. La prévention consisterait en quel type d'action?
En fait, c'est trois points que nous avons ciblés. La sensibilisation, la prévention et la répression.
Ok.
La sensibilisation consiste à sensibiliser d'abord les enseignants qui sont les acteurs capitales de cette histoire. Il y a les étudiants qu'il faut sensibiliser aussi, qui sont victimes, et pratiquement les gouvernants qui doit nécessairement donner les moyens, parce que nous ne pouvons pas faire cette action de sensibilisation sans les moyens. Et dans cette sensibilisation, c'est que nous insistons. Si la situation actuelle, il nous faut nécessairement avoir des formateurs, ça va nous amener à avoir une formation des formateurs au niveau de la sensibilisation.
Mais alors, la prévention, l'étape de prévention intervient à quel moment et comment ça va se dérouler?
L'étape de prévention, c'est tout un long programme. Après avoir fait la sensibilisation, nous allons passer à l'étape de la prévention. Je crois que pour entrer en détail, pratiquement c'est tous les trois points qui est la prévention, les deuxièmes points qui est la prévention et la répression, ça risque de nous prendre suffisamment de temps. Et parce qu'aujourd'hui, au niveau de notre discussion, nous sommes en train de discuter avec nos amis de la commission pour dire qui va gérer cette commission, qui va patronner cette commission. Et on est arrivé à une conclusion que la commission sera patronnée par les ministères. C'est ce qui, à juste titre, que les ministères, avec la réforme qui est en train de faire maintenant, et ils pouvaient avoir les possibilités d'étendre cette commission au niveau de l'intérieur de chaque province. Parce que vous savez, dans notre réforme, nous allons créer des académies provinciales, ce qui fait qu'au niveau des provinces, cette commission va être gérée par des académies provinciaux, par des académies provinciales plutôt. Et la discussion telle que ça a déjà évolué, nous sommes en train même de réfléchir quels sont les moyens que nous allons utiliser. Ce sont des conférences, nous allons utiliser des dépliants, ça c'est pour la sensibilisation, au niveau pratiquement de la sensibilisation. Et nous pouvons même dire, parce que nous devons commencer par les étapes, hein. C'est pour cela que j'insiste sur l'étape de la sensibilisation.
Voilà. Monsieur le ministre.
Excusez-moi si je vous prends, je monopolise la parole, c'est pour vous donner l'explication, pour avoir une concordance dans mes idées. Et tous ces programmes tels que présentés, nous sommes même en contact avec des bailleurs de fonds, avec en collaboration avec nos amis de la commission d'éthique et de la lutte contre la corruption. Il y a quelques bailleurs de fonds qui sont prêts à appuyer l'idée et à financer l'idée, mais ils attendent de nous qu'il y ait des projets bancables. Je peux vous citer le PNUD. Nos amis de la lutte contre la corruption ont déjà discuté avec les PNUD. Les PNUD est d'accord pour appuyer l'idée, même financer l'idée, mais ils attendent un dossier complet, un projet bien ficelé, et je crois qu'il va aller.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la troisième étape qui est la répression? Qui sera réprimé et ça sera comment?
Qui sera réprimé, c'est pratiquement les deux acteurs, les deux premiers acteurs que nous avons cités, c'est-à-dire l'enseignant et l'étudiant. Il y a toutes les infernales juridiques qui régissent l'enseignement supérieur et universitaire et la loi de notre pays qui donne la possibilité d'épinir les enseignants. La fois passée, vous en souviendrez, lors de mon exposé, j'avais dit qu'il faut aller quand même à la réparation des enseignants. Il est de même pour les étudiants aussi, parce qu'on a constaté que les provocateurs, on voit qui commence les problèmes, ce n'est pas seulement les enseignants, il faut voir la faute, pas seulement des enseignants, mais aussi du côté de l'étudiant. Alors nous avons aussi la possibilité de punir l'étudiant.
Mais monsieur le vice-ministre, c'est un grand programme qui rentre pratiquement dans la ligne droite de ce qu'un professeur a dénoncé il y a quelques mois à Lubumbashi, le professeur Kamangamanga qu'on a entendu tout à l'heure. Mais il croupit encore sous une suspension depuis août 2004, une suspension rectorale qui ne peut pas aller au-delà de 3 mois, mais depuis août 2004, il est encore suspendu jusqu'aujourd'hui.
En fait, ça, je ne suis pas saisi de ces détails-là du professeur Manga. De toute façon, s'il a des recours, il n'a rien trouvé ça au niveau du ministère, on va l'examiner. En général, c'est pour cela qu'on voulait mettre cette commission à marche sur pied. Je crois que la commission va se saisir de tous ces cas et nous soumettre, on va essayer d'évoluer, de résoudre certains problèmes. L'essentiel, c'est d'avoir l'idée de les mettre sur pied et d'agir.
Voilà, monsieur Jérôme Kamaté, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes le vice-ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir été disponible aujourd'hui pour parler de ce problème. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec la même disponibilité.
Merci Walter, merci beaucoup.
Merci beaucoup monsieur le vice-ministre. Rendons-nous à présent à Uvira, où depuis vendredi 11 février dernier, les travaux de réhabilitation des ponts Kimanga 1 et 2 ont été amorcés. Ces travaux sont financés par deux bailleurs de fonds, OCHA et ECHO. OCHA, c'est le Bureau des Nations Unies de coordination des actions humanitaires. ECHO, c'est la branche humanitaire de la Commission européenne. Les travaux sont exécutés par l'ONG ACTED. Deux ponts de la cité d'Uvira ont été endommagés par de très fortes pluies. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Bukavu Charlotte Ngongi qui revient de Uvira. Charlotte Ngongi Selemani, bonjour.
Bonjour Alter.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la réhabilitation de ces deux ponts à Uvira?
Je dois d'abord vous dire que la cité d'Uvira est en plein travaux. À part les ponts, les ONG locales et internationales ainsi que les jeunes de la cité travaillent au déblayage de la seule artère principale existant dans la cité d'Uvira. On pouvait lire sur de nombreuses pancartes « Attention, travaux ». Ceci dit, les travaux proprement dits de la réhabilitation des ponts ont débuté dernièrement par ACTED, d'abord sur le pont Kimanga 2, le pont qui est très utilisé à cause de la destruction du pont Balekari. Suivons plutôt François Renaud, ingénieur et responsable des ACTED Uvira, qui nous présente l'état du pont Kimanga 2 et ce qu'ils vont entreprendre comme travaux.
Donc on se trouve au niveau du pont Kimanga 2. On a commencé des travaux de réhabilitation depuis 2 jours. Est un pont qui présente des petites dégradations au niveau de sa base liées au creusement de la rivière sous l'ouvrage. Donc dans un premier temps, on va combler le trou qui se trouve sous le pont avec une maçonnerie de moellons. Et ensuite, on va mettre un système de gabions pour stabiliser les talus en amont et en aval. Et on reprend en même temps des petits travaux sur la route, des petits travaux de ravinement qui détruisaient la route.
Voilà, il y a un autre pont non loin de Kimanga 2, Charlotte. Est-ce que le pont Balekare est aussi en pleine réhabilitation?
En effet, Walter, ACTED a aussi commencé les travaux sur le pont Balekare, pont situé à 500 mètres de l'autre pont, toujours dans les mêmes quartiers, donc le quartier Kimanga. Ces travaux qui ont débuté lundi dernier vont devoir vite s'effectuer, car la période du mois de mars et avril est une période de fortes pluies dans la région. Je vous propose d'écouter encore François Renaud qui parle cette fois-ci du pont Balekare.
Donc à l'époque, il y avait une voûte qui faisait à peu près 2 mètres de haut sur 1 m30, 1 m40 de large. Cette voûte s'est cassée suite à un manque d'entretien et à des affouillements comme on en retrouve sur Kimanga 2. Donc nous allons enlever toute la terre au-dessus de l'ouvrage, nous allons casser l'ouvrage restant et ensuite nous allons en reconstruire un beaucoup plus grand pour prendre en compte les augmentations de précipitations de ces dernières années. Maintenant, on risque d'être gêné avec la grande saison des pluies qui va arriver. Donc, on va faire le maximum tant qu'il fait beau. Et puis, avec les premières pluies, on verra si on peut continuer, s'il faut arrêter les travaux pendant quelques jours.
Charlotte, parlons de l'impact social de ces travaux. On sait très bien que l'impact économique, ça sera de désenclaver évidemment ces quartiers, de les relier au reste des localités de la contrée. Mais impact social, pouvez-vous nous dire qui est-ce qui travaille sur ces chantiers et comment ils sont payés?
Walter, pour exécuter ces travaux, l'ONG ACTED a dû embaucher une main-d'œuvre locale, soit 65 personnes, tous habitants de la cité d'Ouvira. Ces ouvriers sont nourris à midi et perçoivent un salaire journalier. Ils mettent des bouchées doubles afin de vite réparer les deux ponts avant l'arrivée des grandes pluies. L'un des ouvriers explique pourquoi ces ailes.
Il faut très vite faire avant l'arrivée des grandes pluies. Nous l'avons appris, nous l'avons entendu en début, c'est que ces ponts ont été détériorés à cause des fortes érosions qu'il y a dans la zone. Est-ce qu'il n'y a pas d'habitation? Il n'y a-t-il pas des personnes qui habitent tout autour, Charlotte, au point qu'ils souhaiteraient peut-être que les travaux ne se limitent pas seulement au pont, qui est plutôt un projet plus global?
Oui, en effet, Walter, l'érosion gagne les deux rives. D'ailleurs, les riverains des ponts sont mécontents de voir que les travaux ne se limitent qu'au niveau des ponts, alors que l'érosion est très avancée et menace leurs habitations. Pour eux, il faudrait qu'ACTED s'occupe aussi de ces problèmes d'érosion. Suivons plutôt l'un des riverains qui exprime son mécontentement.
ACTED ne fait rien. Puisqu'avant, il a essayé de faire quelque chose. Lui, il a mis des gabions et a versé 10 bennes de pierre. Mais deux jours après, il y a eu une petite pluie, tout a été emporté. Puisque maintenant, il fait, voilà, juste à côté de terrasse, c'est là où le pont tend à se casser, où il est construit un mur. Mais ce mur, donc c'est une façon d'activer l'eau, de s'enfoncer davantage. Donc ça va s'écrouler et ça va enfoncer davantage, il y aura un ravin plus fort. On devrait le faire d'une manière importante. Puisque nous, notre souci, et qu'on fasse un travail durable. Il faut que l'aide soit effective. L'aide soit une aide alors. Et pas faire une aventure d'aide, non? Il faut que l'aide soit consistante et qu'on trouve réellement qu'on a aidé de mes moyens. Je vais construire.
Voilà, c'est un point de vue d'un riverain de ces ponts, de ces sites érosifs à Ouvira. Charlotte, comment le reste des habitants apprécient-ils les démarrages finalement de ces travaux sur les deux ponts?
Eh bien Walter, ces travaux constituent une bonne surprise pour les habitants d'Ouvira, car ils les attendaient depuis longtemps. Personne ne pensait que ces travaux allaient encore se réaliser.
Et alors, peut-être un mot sur les financements des travaux, qui est-ce qui paye, quoi à vrai dire, la répartition des charges, des tâches?
L'Office de la coordination des affaires humanitaires, OCHA et ECHO sont les plus gros bailleurs. Ajoutons que plusieurs personnes se sont dites prêtes à financer ces travaux, notamment l'unité de coordination des projets de réunification ICOP en sigle, avec les fonds de la Banque mondiale, la Fédération des entreprises du Congo FEC, moyennant une exonération des taxes sur les marchandises, et en dernier lieu, les projets du gouvernement de transition à travers le gouvernorat des provinces, mais pour l'instant, ces propositions sont restées lettres mortes. L'administrateur du territoire contacté sur place nous dit avoir signé un protocole d'accord avec les entrepreneurs de cette restauration qui stipule que les territoires d'Ouvira va intervenir pour l'exécution de ces travaux. Pourtant, Walter, ces entrepreneurs affirment n'avoir pour l'heure rien reçu.
Voilà, Charlotte, merci beaucoup pour d'autres détails. Nous aurons peut-être des réponses avec François Reynaud, qui va être notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations et à la prochaine occasion.
À moi de vous remercier.
Merci beaucoup. Okapi Action, nous sommes en mesure de recevoir notre invité, Monsieur François Reynaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'ONG Acted. C'est votre ONG qui mène sur terrain les travaux de réhabilitation de deux ponts à Ouvira. Pendant que les travaux sont en train de se faire maintenant, qu'est-ce que vous pouvez demander aux populations, aux usagers, de prendre comme attitude, notamment automobilistes et autres cyclistes?
Je pense qu'il y a deux attitudes qui seraient intéressantes de prendre. Au niveau du pont Balécar, c'est de respecter les barrières qu'on a installées par rapport à la sécurité, afin qu'aucune personne ne vienne trop proche du déblai, afin de ne pas tomber dans le trou et de ne pas se faire mal. Et au niveau de Kimanga 2, le problème, c'est que c'est un pont qui était dimensionné pour supporter des tonnages inférieurs à 10 ou 15 tonnes. Quand on commençait les travaux, on a remarqué qu'il y a des camions avec de très lourds tonnages qui passaient. Donc nous, on a prévenu les autorités par rapport à ça, afin qu'ils limitent le tonnage pour que ce pont puisse continuer à être utilisé.
On sait très bien que tous ces ponts se trouvent dans une zone à risque par rapport aux érosions. Est-ce que vous prenez des précautions à quelques mètres à la ronde de ces ouvrages pour que ces ouvrages soient stabilisés?
Oui, tout à fait. En plus des travaux de réhabilitation de construction de l'ouvrage, nous allons poser un système de gabions à côté des pentes pour stabiliser tous ces talus qui sont en train de s'éroder et de se casser petit à petit.
Mais de l'avis de certains riverains de ces travaux, de ce pont, il aura fallu aussi prendre en compte des sites érosifs sur lesquels il y a les habitants non loin de là, parce que c'est la même problématique autour. Est-ce qu'il y a, ou c'est vous ou quelqu'un d'autre qui pense aussi à stabiliser les érosions dans les zones habitables?
Nous, le projet sur lequel nous travaillons, qui a été financé par Ocha et par ECO, c'est de réhabiliter les deux ouvrages, Kimanga 1 et Kimanga 2. Donc on n'a pas l'argent nécessaire pour stabiliser l'ensemble des talus qui partent des ponts. Je pense que ce travail est un travail de la responsabilité des autorités locales à Ouvira. Donc c'est à eux à prendre les mesures nécessaires pour voir comment stabiliser toutes ces berges autour des domaines habitables pour qu'il n'y ait plus de danger pour tous ces riverains.
On le sait, à quelques 2 kilomètres au nord de ces deux ponts en pleine reconstruction aujourd'hui, il y a aussi l'autre pont au Kakungwe qui nécessite des réparations. Est-ce que vous n'y pensez pas?
Tout à fait, il y a Kakungwe, il y a des endroits qui sont en train de se casser également et qui risquent de casser la route. Alors il y a tout un tas d'intervenants qui actuellement sont sur Ouvira. Je pense que Kakungwe va être réhabilité par l'Office des routes. Puis il y a d'autres endroits qui sont réhabilités par la MONUC actuellement. Et le PNUD risque également de prendre en charge la réhabilitation de un ou deux ouvrages.
Mais lorsque l'on sait la forte fréquentation de cette voie routière par les différents opérateurs économiques, pourquoi est-ce que vous avez limité les tonnages des véhicules lourds au lieu de penser à faire un ouvrage qui supporterait le maximum du tonnage?
Non, sur Kimanga 1, qui est l'ouvrage qu'on doit reconstruire car il est entièrement cassé, les camions qui passaient vont pouvoir encore passer avec les mêmes tonnages. Moi, quand je limite le tonnage, c'est sur Kimanga 2, c'est-à-dire sur la déviation actuelle, où il y a un pont qui est en état, qui nécessite quelques petites réhabilitations, mais les véhicules peuvent passer. Donc moi, ce que je me suis dit, soit on continue de laisser passer les mêmes camions avec de très lourds tonnages au risque de casser ce pont et donc de bloquer complètement la circulation entre Ouvira Nord et Ouvira Sud, soit on prend quelques mesures qui, c'est vrai, risque d'embêter les transporteurs, mais c'est pour leur permettre de continuer à travailler.
Monsieur François Reynaud, d'ici mars, avril, on aura des fortes pluies dans la région. Est-ce que vous aurez fini vos travaux?
Ben, nous travaillons pour ça, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ces ouvrages soient en état de fonctionnement avant la saison des pluies.
Et avant la saison de pluie, ça veut dire quand précisément? Vous pouvez donner peut-être une date approximative d'ici là?
C'est assez difficile de donner une date. Nous, le projet doit se terminer le 31 avril.
Bien, merci beaucoup François Reynaud. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes responsable de l'ONG Acted. Cette ONG est en train de réhabiliter deux ponts à Ouvira, à savoir les ponts Kamanga 1 et 2. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Radio Okapi.
Merci.
Et voilà, Okapi Action, des réactions par rapport à nos sujets, le sujet des codes sexuellement transmissibles. Piero Kamoy de Lubumbashi qui pense, qui dit que cette pratique existe aussi dans les écoles secondaires. Les professeurs, selon Piero Kamoy, qui s'adonnent à cette pratique, sont-ils réellement des parents, s'interroge-t-il, et quel but ils poursuivent en faisant cela? Alors, c'est Piero Kamoy qui s'interroge. Victoria Umande, depuis Goma, qui félicite le professeur Kamangamanga pour avoir eu le courage de dénoncer ce mal. Alors, il s'interroge, quelles sont les sanctions prévues à l'endroit des professeurs qui commettent ces pratiques? Quel recours peut avoir l'étudiante qui est victime de cette pratique? On a entendu le vice-ministre parler d'une commission qui est en cours et qui aura un mandat précis. Il a parlé de la sensibilisation, de la prévention et de la répression. Au terme de répression, il a cité notamment qu'il y aurait des sanctions, des révocations à ces niveaux et même mettre en œuvre tout l'arsenal juridique en la matière. Une réaction de la Belgique, Francis Sicilello, qui suit l'émission, et il a suivi particulièrement le thème sur les notes sexuellement transmissibles. Francis Sicilello a une cousine qui a été elle aussi victime de ces pratiques. À son avis, il pense qu'on ne devrait pas seulement sensibiliser les gens, c'est-à-dire professeurs, étudiants et parents, il pense qu'il faudrait sanctionner et, après enquête, les professeurs qui se livrent à de telles pratiques. Donc, Okapi Action, on continue ce magazine, le rendez-vous de 10h03 tous les jours. Les élections, c'est facile à comprendre. Aujourd'hui, la version française de la mission de la Commission électorale indépendante. Franklin Moliba Cissé et Thérèse Kankou. Tout de suite.
Les élections, c'est facile à comprendre. Avec Thérèse Kankou et Franklin Moliba Cissé.
J'ai aucune opinion là-dessus. Hein. Bon, je ne m'y connais pas vraiment dans ces histoires-là.
N'est-ce pas, c'est la commission électorale sur justice qui va organiser tout ça?
Le bureau de Monsieur l'abbé Malman, comment on appelle ça? La CEU. Oui, en collaboration avec tout le reste, le gouvernement et tout le reste. Ce sont eux qui doivent organiser.
On voit clairement, Thérèse, que les gens ont des points de vue contradictoires ou simplement ne savent pas qui va organiser les futures élections. Donnons-leur les éléments de réponse.
Eh bien, Franklin, les élections futures seront organisées par un groupe des gens issus de toute la classe politique et de toute la société civile congolaise.
La classe politique regroupe tous les politiciens congolais, alors que la société civile, c'est l'ensemble de toutes les professions telles que les enseignants, les pêcheurs, les agriculteurs, ainsi que les confessions religieuses et les ONG de développement.
Certaines personnes parmi ce groupe des gens forment un corps appelé Commission électorale indépendante, en abrégé CEI.
La Commission électorale indépendante comprend trois organes principaux. Il y a une assemblée plénière, un bureau et plusieurs commissions spéciales.
L'Assemblée plénière fixe les grandes lignes que la Commission électorale indépendante doit suivre. Elle évalue aussi son action. Elle est composée de 21 membres. Le bureau est l'organe de la CEI qui prend des décisions pour les bons déroulements des élections. Elle a la gestion journalière de la commission. Ce bureau est dirigé par l'abbé Apollinaire Malumalu. Le bureau est composé de 8 membres. Les commissions spéciales sont les organes techniques de la CEI. Elles sont au nombre de 7. Elles s'occupent par exemple de l'éducation des électeurs, de la formation, de l'identification des électeurs, soit ce qu'on appelle le recensement.
La CEI a pour rôle principal d'organiser et de surveiller le bon déroulement des élections et du référendum. Le référendum, c'est quand le peuple est appelé à se prononcer au moyen d'un vote pour ou contre une loi fondamentale du pays. Au Congo, on doit tenir un référendum sur la Constitution. Ainsi, la CEI est l'organe qui est responsable de la réussite ou non du bon déroulement d'élections ou du référendum. C'est pourquoi, si la CEI estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections en juin 2005, elle peut proposer la prolongation de la transition.
C'est vrai, Franklin, puisque la loi lui donne à elle seule cette possibilité de demander la prolongation de la transition.
Ben, messieurs, vous avez des questions pertinentes devant nous, là. Mais qui sait, nous ne devons pas organiser les élections. Surtout les cas de l'RDC. Je trouve que ça sera beaucoup plus coordonné, cerné, surveillé par l'Occident. C'est clair et net. C'est clair et net.
Pour moi, c'est simple, l'homme. Le gouvernement, avec l'appui extérieur, peut organiser les élections.
Mais c'est la CIES qui va organiser les élections en RDC. Ou bien communauté internationale. Ils sont là pour ça.
Thérèse, on vient d'entendre plusieurs personnes qui ont des idées erronées sur qui va organiser les élections.
Ce n'est pas le gouvernement, ni le Parlement, ni la MONUC qui sont chargés d'organiser les élections en RDC.
Alors Thérèse, je te repose la question, qui va organiser les élections?
Eh bien Franklin, c'est la Commission électorale indépendante.
Okapi. Vos réactions au 081 890 63 94. Réagissez, ceci est votre magazine. Nous avons en direct monsieur le chargé de la communication de la commission électorale indépendante, Robert Vaingene. Bonjour.
Bonjour Walter.
Merci d'être encore disponible aujourd'hui. Vous avez entendu différentes réponses par rapport à qui va organiser les élections, un commentaire?
Oui, en fait, il ressort de toutes ces réponses que, bon, la population n'a pas beaucoup d'informations sur l'organisme qui va organiser les élections dans notre pays. Mmh. Et c'est pourquoi il est très, très important qu'on puisse pouvoir informer cette population sur l'existence, la mission, les structures de la Commission électorale indépendante.
Quelle est la mission de la Commission électorale indépendante? Parce que nous y sommes.
En fait, Walter, la principale mission de la Commission électorale indépendante est surtout celle de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Mm. Ça, c'est la mission principale de la Commission électorale indépendante. En fait, à cette mission-là, il y a d'autres missions aussi, parce qu'au-delà de garantir la neutralité et l'impartialité, il y a également le fait que la Commission électorale indépendante contribue aussi à l'élaboration des cadres juridiques relatifs au processus référendaire et électoraux.
Et dans ce domaine précis, par exemple, si je voudrais revenir au caractère au fait de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques, on en avait parlé la semaine dernière, mais comment de quelles garanties dispose-t-on au niveau de la CEI pour jouer ce rôle de neutralité et d'impartialité dans l'organisation?
En fait, les garanties que la CEI possède, c'est que la loi portant à fonctionnement, organisation et attribution de cette commission, et cette commission, en tout cas, lui donne le pouvoir d'une autonomie, lui donne une autonomie administrative, une autonomie de gestion, une autonomie financière. C'est-à-dire que la commission électorale indépendante ne dépend ni du gouvernement, ni des autres institutions. Elle agit seule et en toute neutralité et elle agit avec et en collaboration avec tout le monde.
Ah, vous avez dit avec et en collaboration, c'est-à-dire qu'il y a quand même des domaines de collaboration avec nos institutions.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est une institution de la transition parmi d'autres institutions. Au niveau du gouvernement, par exemple, c'est le gouvernement qui est chargé, par exemple, de financer les élections. Et c'est-à-dire de donner à la CI les moyens qui puissent permettre à cette institution de pouvoir organiser les élections. Et à ce titre-là, il y a tout intérêt que la commission électorale puisse collaborer avec le gouvernement. Même au niveau des autres opérations, par exemple, il y a le ministère de l'Intérieur qui a l'administration du territoire. Et compte tenu de l'importance de l'étendue du pays et de l'expérience que ce ministère possède, la commission électorale doit collaborer avec cette institution, disons ces ministères, pour pouvoir solliciter, par exemple, une expertise en ce sens.
Nous avons vu au courant de la semaine une cérémonie de lancement officiel de l'identification. Ça s'est passé à Fatima. Qu'est-ce que c'était, cette cérémonie-là?
En fait, c'est une campagne de sensibilisation sur justement la loi portant identification enrôlement des électeurs. C'est-à-dire qu'au niveau de Kinshasa, on a associé tous les territoriaux, c'est comme ça qu'on le dit, du chef du quartier jusqu'au gouverneur, pour leur demander justement de s'imprégner, de s'impliquer maintenant, de s'imprégner de cette loi, de manière à ce qu'ils puissent en faire une vulgarisation à la base. Voilà, c'était ça l'objectif de cet événement.
Et là, on a vu le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa. On a vu aussi, évidemment, le président de la commission électorale indépendante. Est-ce que des activités comme celle-là, des communications, des sensibilisations se font en dehors de Kinshasa?
Oui, c'est-à-dire, Kinshasa, c'était une expérience pilote. Ça commence à Kinshasa et puis ça va se poursuivre à travers le pays. On commence d'abord avec les territoriaux et puis ça sera les acteurs non étatiques comme les confessions religieuses, comme les ONG et ainsi de suite. C'est pour essayer d'impliquer tout le monde au niveau du processus électoral de manière à ce que la sensibilisation puisse être faite par tout un chacun.
On a dit tout à l'heure que la commission électorale indépendante contribue à l'élaboration des cadres juridiques relatifs au processus référendaire et électoraux. Là, c'est des choses qui ont vraiment traîné, au point qu'il y a même, au moment où nous parlons, des lois qui ne sont même pas encore sorties. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retard?
Oui, tout à fait. La commission, en ce qui concerne la commission électorale indépendante, elle essaie de préparer des projets qu'elle soumet au niveau de l'Assemblée.
Des projets de loi
qu'elle soumet au niveau de l'Assemblée pour que celle-ci essaie de voir à quelle mesure elle peut examiner telle ou telle autre loi. En fait, au niveau de la commission électorale indépendante, les choses se font très vite. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, la loi portant organisation, fonctionnement, attribution de la commission électorale indépendante avait été déposée en 2003. Et vous êtes convaincu avec moi que c'est seulement le 5 juin que cette loi-là, 2004, que cette loi-là a été promulguée. Donc, les retards, ce n'est pas forcément du côté de la commission électorale indépendante.
Et il faut dire aux auditeurs, parallèlement à tout ça, qu'actuellement, il y a une session extraordinaire qui a été convoquée au niveau du Parlement. Il y a notamment le gros du lot, c'est les processus électoraux et le budget.
Oui, effectivement, parce que le budget doit permettre à la commission électorale de connaître effectivement les montants lui alloués. Et c'est grâce à ces chiffres que la commission électorale pourra se déployer jusqu'à la base, parce que vous savez que ces structures vont jusqu'au bureau de liaison qui sont à 64.
dans les provinces,
dans les provinces avec 12 relais. Et nous, la commission électorale indépendante ne peut se déployer qu'avec ces moyens-là, puisque le gouvernement est chargé de lui fournir des moyens de fonctionnement et de gestion.
Il y a aussi une part très très importante de la communauté internationale dans ce financement.
Oui, effectivement, la communauté internationale finance les gros, mais c'est les gros des opérations électorales.
Ah, ok.
C'est-à-dire, c'est en dehors du fonctionnement de la commission électorale indépendante.
On a bien compris, on va revenir tout à l'heure sur d'autres aspects des attributions et missions de la commission électorale indépendante. Vos réactions au 081-890-63-94 ou à action@radiocapi.net. Monsieur Robert, il y a... d'autres attributions, évidemment, c'est la plus grande, c'est celle que l'on voit, c'est comme le, si vous voulez, le bout de l'iceberg, hein, la pointe qu'on voit, qu'on atteint. Là, on parlait de ce qui était un peu sous-jacent depuis la fondation là-dedans, mais on dit, c'est la commission électorale, il faut le dire, qui va préparer, organiser, gérer, contrôler le processus référendaire et électoral pendant la transition. Ça, c'est la grande mission que tout le monde voit de vue d'œil. Et c'est en toute indépendance et transparence. C'est pour ça qu'on dit commission électorale et indépendante. Pouvez-vous nous dire comment ça se prépare, ça?
Oui, effectivement. Bon, au niveau des attributions de la commission électorale indépendante, c'est cette grande attribution qui est plus vue et par tout le monde et permet justement à la commission électorale indépendante de réaliser notamment par exemple l'opération qui va bientôt se dérouler,
laquelle?
L'identification des nationaux.
Et vous dites bientôt, c'est-à-dire quand, selon le calendrier?
En tout cas, c'est avant juin.
Ok.
Ouais.
Oui.
Donc ça va procéder à l'enrôlement des électeurs. Tout électeur, c'est toute personne d'au moins 18 ans.
Ah, ça au moins c'est connu déjà.
C'est connu. Et puis, on va établir justement à partir de cet enrôlement, à l'issue de l'enrôlement, on va établir les listes électorales. Et après, ça va établir les listes électorales. On va procéder au référendum constitutionnel. C'est-à-dire les gens vont se prononcer sur la constitution, sur le projet de constitution, je crois, qui est
sous examen, qui n'est pas encore adopté,
qui est examiné, je crois, qui figure sur
alors de deux jours de la session extraordinaire
du Parlement. Mais aussi, c'est après le référendum, on va passer maintenant au scrutin proprement dit. Et après les scrutins, il y a les dépouillements. Donc on dépouille pour voir combien de bulletins de vote, combien ont voté oui pour tel ou tel autre. Et évidemment, à la fin, on annonce le résultat.
Oui, mais il y a quelque chose que je crois n'avoir pas bien entendu. Les auditeurs peut-être peuvent me corriger si je me trompe en réagissant, en appelant au 081-890-63-94. C'est qui sera candidat, qui validera les candidatures? Parce que bon, on ne connaît pas encore une loi qui nous précise quelles sont les conditions pour être candidat à la présidence, aux élections présidentielles. Qui validera les candidatures?
Oui, en fait, les candidatures seront reçues au niveau de la commission électorale indépendante. Et ces candidatures seront validées en fonction des critères qui seront fixés par la loi électorale. Et cette loi-là, elle est votée par le Parlement.
Elle ne l'est pas encore.
Elle ne l'est pas encore, parce que cette loi-là dépend de la Constitution, qui doit d'abord déterminer les options fondamentales, c'est-à-dire savoir quelle forme de l'État nous aurons, puis bon, et d'autres options comme savoir quel régime nous allons adopter. parce que sans cela, on ne sait pas mettre sur pied la loi électorale.
Ça me fait penser à quelque chose qui est dans les couloirs, dans les dédales, à la limite dans les méandres parlementaires actuellement. On suppute un peu trop sur l'âge du candidat président de la République, sans évoquer d'autres conditions. On ne veut pas ici forcer le secret des débats parlementaires. Nous n'y sommes pas d'ailleurs, mais bon, c'est des choses qui sortent comme ça des couloirs du Parlement par rapport à l'âge du président. Déjà, on suppute là-dessus, ça présente un débat houleux, cette loi électorale.
Tout à fait, Walter, mais vous savez, la commission électorale indépendante, elle n'attend que les lois qui seront votées par les parlements. Mm-hmm. Elle n'a pas assez prononcé là-dessus, et tout autant qu'elle est neutre et impartiale. Mm-hmm. Et elle attend que les parlements, les députés puissent débattre sur cette affaire et puis bon, tous ces critères, et dès que les critères seront fixés, eh bien la commission électorale va les vulgariser et va informer toute la population.
Mm-hmm. Il y a un autre aspect là, c'est pas politique, c'est purement technique, mais technique qui vous concerne parce que vous êtes le chargé de la communication. On le sait très bien, pour garantir l'équilibre dans ce processus, il y a une période qui s'appelle la période des campagnes électorales. Donc, après la validation des candidatures, évidemment, la commission électorale va annoncer, bon, officiellement, la campagne électorale commence. Même si certaines personnes ont déjà commencé des campagnes informelles via les médias, on le sait, il ne faut pas se le cacher. Mais bon, disons, quand il y aura cette campagne électorale, la période officielle de la campagne électorale annoncée, est-ce qu'il est prévu au niveau de la commission électorale, avec la collaboration d'autres institutions, de équilibrer le nombre de passages sur le média, les temps d'antenne de tel ou tel autre candidat, parce qu'il faut qu'ils aillent à la campagne avec au moins le même moyen. Comment ça se passe là?
Évidemment, on devra répartir également équitablement les temps d'antenne, parce que sur ce point-là, la commission électorale indépendante s'est joint à la haute autorité des médias, qui pratiquement a dans ses missions, cette option. Et justement, lors des campagnes, on va, avec la collaboration de la Haute Autorité des médias, essayer de voir comment répartir équitablement, sans discrimination, les temps pour chaque candidat, pour chaque parti politique. Et la commission électorale indépendante a déjà commencé collabore déjà avec la Haute Autorité des médias sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle, au niveau des ateliers ou du cadre de concertation médias-élections, la Haute Autorité des médias est toujours associée.
Parce qu'on a vu des séminaires ateliers être organisés ici à Kinshasa à l'intention des confrères, des journalistes. Je me rappelle qu'il y a eu un atelier séminaire à Kisangani, ainsi de suite. Mais bon, là, je vois Kinshasa, Kisangani et les autres journalistes qui sont à Lubumbashi, qui sont à Mbandaka, Badolité et ailleurs. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de tout ça aussi?
Mais Walter, nous avons déjà fait un autre atelier à la Kananga. Cet atelier-là a regroupé les journalistes de Kasaï et du Katanga. Nous avons déjà bouclé tout le pays, tous les journalistes de tous les pays. Et alors, il nous reste justement à organiser maintenant un atelier national. Et de cet atelier national sortira maintenant un cadre national média-élection qui va nous permettre, nous, la Commission électorale indépendante, la Haute Autorité des médias et les journalistes, de mettre sur pied des mécanismes qui nous permettront les uns et les autres de pouvoir commencer les actions que nous devons mener ensemble avec les journalistes, notamment la diffusion, la vulgarisation et tout ce que vous savez ce qui concerne les médias.
Mais il y a des médias publics, cela s'entend. Bon, c'est l'État, il faut repartir équitablement, même si ça ne l'est pas encore sur les médias publics. Ça se dénonce, c'est pas moi qui le dis. Mais bon, espérons que d'ici là, ce sera le cas. Mais pour les médias privés, qui ont leur grille de programme, qui ont leur ligne éditoriale, comment ça se passe? Est-ce que vous négociez avec eux ou comment ils répondent par rapport à tout ça?
Bon, de toutes les façons, il y aura des règles de jeu qui seront fixées. Et lorsque les règles de jeu sont fixées, elles concernent également les médias privés. Parce que les médias privés se trouvent aussi dans l'État et qu'ils ne peuvent pas se soustraire de ces règles de jeu. Il s'agit ici des élections et c'est une matière sensible. Et que certains candidats ne pourront pas supporter que même dans les médias privés, et il se passe des discriminations de ce genre. Mm-hmm. Et la haute autorité des médias a justement cela dans ses tâches.
Mm-hmm. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est, ça me revient à l'esprit parce qu'on a vu au courant de la semaine dernière, vendredi dernier, M. l'abbé président de la commission électorale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou à l'IFASIC pour vulgariser certaines choses aux étudiants en communication. Et puis après, l'après-midi, il était avec les entrepreneurs. J'ai appris qu'ils ont parlé des passations des marchés afférents aux opérations électorales. C'est aussi une attribution de la CEI.
Oui, tout à fait. En fait, cette attribution-là, elle est déjà en marche parce qu'on a déjà lancé des appels à manifestation d'intérêt et que on appelle les entrepreneurs qui sont capables de fournir du matériel sur l'identification et l'enrôlement des électeurs de pouvoir se prononcer. Et c'est dans ce cadre-là que le président de la commission électorale s'est retrouvé avec vendredi passé avec le membre de la FEC. Mm-hmm. Et c'était justement pour leur annoncer cela et pour leur demander de se prononcer étant donné que c'est cette manifestation-là, cette manifestation d'intérêt, et ce concerne et les nationaux et les étrangers.
Mm-hmm. Voilà. Ma dernière question, comment se prennent les décisions au niveau de la commission électorale indépendante? Est-ce que c'est Monsieur l'abbé président qui prend la décision? Si vous voulez, un mot sur la structure, le fonctionnement, comment ça se passe en une trente, on va essayer l'exercice.
Ok, d'accord. La commission, comme vous le savez, a l'organe qu'on appelle l'assemblée plénière. Celle-là, c'est juste pour la conception, l'évaluation des activités. Et le bureau prend décision et gère quotidiennement la commission électorale indépendante. Et au niveau du bureau, ils sont 7 membres. Ils sont 8, c'est-à-dire les 7 et le président. Mm-hmm. Et en tout cas, pour la plupart, c'est souvent par consensus. Et justement, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir ces consensus, on peut de temps en temps faire passer par vote. Mm-hmm.
Oui. Et ça se passe jusque-là très bien?
Jusque-là, au-delà de provenance de chaque membre, à la commission électorale indépendante, les choses se passent assez bien, parce que il y a quand même des décisions favorables qui ont permis aujourd'hui à la commission électorale indépendante de pouvoir avancer et d'arriver à l'étape où on se trouve.
Les regards sont donc fixés vers l'hémicycle du Palais du Peuple, les deux hémicycles, au Sénat et à la Chambre des députés, pour que ça s'accélère, toutes ces lois, tout ce budget, que tout le monde attend de tous les vœux. Merci beaucoup Robert Ingené d'être venu commenter la mission de la commission électorale indépendante avec nous sur nos antennes. Le prochain rendez-vous, ça sera évidemment vendredi prochain. Ça sera vous ou quelqu'un d'autre de la commission électorale indépendante ou un expert en matière électorale. C'est une mission que Okapi a prise de informer, de sensibiliser sur les élections et comment ça se passe. Merci beaucoup d'être venu, Robert.
Merci, Walter.
Okapi Action, nous sommes là pour la dernière partie du magazine des réactions. On continue à arriver par rapport à nos sujets aujourd'hui. Je vais commencer par celle-ci de Monsieur Jean-Pierre Bolingo de Lubumbashi qui voulait savoir sur base de quels critères a-t-on recruté ceux qui sont à la CEI. Voilà, réponse de Robert qui vient de quitter, il m'a écrit ça très rapidement. La CEI lance des appels d'offres qui regroupent les critères répondant aux postes à pourvoir. les candidats passent au test et ceux qui sont ceux qui satisfont au test sont recrutés. Il faut dire que au niveau du bureau, il y a des représentations à partir des composantes aussi. Ça, c'était un aspect qui avait été réglé en fonction de l'accord global et inclusif. Autre réaction par rapport aux notes sexuellement transmissibles, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais continuer à vous faire part de la réaction de Monsieur Francis Sissi Lilo, résident en Belgique, qui nous écoute sur notre site internet www.radiocapi.net. Faites comme lui si vous le pouvez. Alors, Francis Sissi Lilo pense que si le fait de demander de l'argent pour qu'un étudiant réussisse est dû aux difficultés financières de notre pays, Francis pense que celui des notes sexuellement transmissibles est surtout dû au mauvais penchant et à la perversité des professeurs. Selon Francis Sissi Lilo, les parents et les étudiants sont aussi concernés dans cette affaire, en ce sens que les parents pourraient conscientiser, c'est son propre terme, leurs enfants en les évitant par exemple d'éviter d'aiguiser les professeurs par, je cite, des habillements trop sexy, etc. C'est Francis Lelo, un auditeur internaute en Belgique, qui nous écrit. Et donc, selon Francis Sissi Lilo, ce problème est vaste et il ne faudrait surtout pas chercher à résoudre la question dans la globalité, parce qu'il est ici non seulement question de l'immoralité, mais aussi de l'éducation des mœurs. Pour Francis Lelo de Belgique, une ville belge, de la mise sur pied d'une vraie justice capable de réprimander toute personne malgré son rang, en mettant, c'est par là qu'il conclut, Sissi Lilo voudrait que, il constate que, en mettant le prof de Lubumbashi, c'est quand même un manga dont il parle de côté, cela ne règle pas le problème, mais au contraire ne fait que, je cite, pâlir l'image de notre pays, de notre société. Fin de citation. Voilà une réaction de Francis Sissi Lilo, internaute qui nous écoutait sur notre site internet depuis la Belgique. Vos réactions au 081-890-63-94. Une réaction d'un auditeur de Lubumbashi, Guillaume.
Ok, je voudrais intervenir concernant le sujet de code sexuellement, note sexuellement transmissible. Mon problème à moi, je trouve que traiter ces sujets sur le plan seulement des études des cités universitaires, ce serait une erreur. Moi, je voudrais personnellement qu'il soit vu sur un plan général. Pourquoi? Puisque cela est réel, ça se passe dans plusieurs domaines. Pour l'emploi, pour que ton dossier, ta demande d'emploi puisse passer, il faudrait, surtout pour nos jeunes sœurs, il faudrait que la jeune sœur se donne au directeur du personnel ou à celui qui est chargé de recevoir les demandes d'emploi. Alors il faudrait qu'il soit vu sur tous les plans, puisque dans notre pays, la femme est devenue pratiquement une marchandise pour avoir ce dont elle a besoin. Merci, je vous remercie.
On sensibilise les associations qui accompagnent les populations autochtones pygmées à la mise en œuvre du nouveau code forestier. Un atelier dans ce sens se tient à Goma. Écoutons le point de cet atelier, le point sur l'évolution de l'atelier, sur tous les contenus dans cet élément de reportage.
Les forêts du bassin du Congo couvrent environ 2 millions de kilomètres carrés et constituent le deuxième bloc forestier après l'Amazonie en Amérique du Sud. Enjeu écologique majeur, les forêts du bassin du Congo représentent aussi une ressource économique essentielle. Il y a deux semaines à Brazzaville, des leaders internationaux venus notamment des continents africains, de la France et des Nations Unies se sont penchés sur la conservation et la gestion durable de forêts. Mais au-delà des idées partagées à ces sommets, les dirigeants du séminaire tenu cette semaine à Goma prennent un argument particulier. Étant les premiers citoyens du Congo, les pygmées sont mieux placés pour entretenir la forêt. Monsieur Jean de Diwasso est le coordonnateur des Africa Capacity. Selon lui, il y a trois points sociaux que les sensibilisateurs devraient retenir.
En fait, les attentes sont de trois ordres. Il s'agit d'impliquer les associations qui travaillent avec les populations autochtones pygmées dans le processus actuellement en cours dans le cadre de la mise en place du code forestier. Pour ce faire, nous attendons à trois types de résultats. Le premier consiste essentiellement à mettre les différentes associations en contact pour qu'elles puissent au moins se dire qu'est-ce qui se fait actuellement par rapport à ces processus. Deuxième résultat, une fois qu'on sait ce qui se fait, mettre en place des stratégies pour essayer de s'intégrer dans ce qui se fait actuellement. Troisièmement, il s'agit essentiellement de voir comment mettre en place une synergie efficace par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement, c'est-à-dire par rapport à ces processus de mise en place du code forestier.
Parmi les participants, le coordonnateur de l'association pour le groupe et l'autopromotion des pygmées et a longtemps quitté la forêt pour la ville, M. Basimika Enamurua, néanmoins reste encore en contact avec la communauté des bases. Et pour lui, il s'est dit satisfait de cet atelier, mais il semble que ce code a été élaboré à l'absence des concernés.
J'ai assisté au séminaire atelier, au séminaire national qui concerne les forêts de la République démocratique du Congo. Et ce que j'ai appris, c'était nouveau parce que je suis un autochtone et que depuis que la législation des forêts existe au Congo, moi je n'en savais pas. Maintenant, ce n'est qu'à partir de ce séminaire que j'ai entendu parler de la législation. Étant des habitants de la forêt, le code est utile, mais ça a été élaboré à l'absence des opinions des populations autochtones. Il y a des articles et des passages dans le code forestier qui parlent des autochtones, mais qui ne déterminent pas exactement les implications des autochtones dans la forêt. Nous voulons proposer des suggestions afin que la mesure d'application du code forestier tienne compte de l'existence des populations autochtones.
D'autres participants de leur côté disent avoir découvert des nouveautés.
Nous voulions à tout prix voir quelles sont les mesures d'application de ce code forestier et quels sont les biens que nous pouvons tirer par rapport aux communautés locales et aux peuples autochtones. Et pour moi personnellement, je viens de découvrir quelque chose de neuf. C'est-à-dire, comment est-ce que nous, les organisations qui, les organisations autochtones et les organisations qui accompagnent le peuple autochtone, nous pouvons capitaliser les intérêts de ce peuple-là au travers les mesures d'accompagnement qui sont prescrites dans le code lui-même. Et ces mesures, nous voulons influer, la société civile voudrait influer dans ces mesures d'application. C'est-à-dire l'arrêté que le président de la République doit sortir pour l'obtention des forêts des communautés locales et des peuples autochtones. Nous voulons influer aussi dans les arrêtés que le ministre doit sortir pour donner la place aux communautés locales et aux peuples autochtones. Nous voulons à ce que ces communautés puissent profiter à 100% de ces opportunités qui nous sont données par le Code.
Ce séminaire s'est clôturé hier jeudi et c'est seulement dans les jours à venir qu'on va voir si ces codes seront appliqués. Car il faut toujours noter l'ironie qu'un groupe si négligé est maintenant appelé pour sauvegarder une ressource si importante pour le pays entier.
Okapi. Okapi à Goma sur 105.2 FM.
Et voilà, l'atelier s'est clôturé. Donc hier, Georges Todia est en ligne depuis Goma. Non, bon, on va prendre l'invité. C'est l'invité qui est en ligne. On devrait avoir Monsieur Jean de Dieu Wasso dans quelques instants. Jean de Dieu Wasso est le coordonnateur de Africa Capacity, cette ONG qui a organisé ce séminaire atelier qui vient de s'achever. D'ici là, on nous précise s'il est en ligne. Disons tout de suite que les pygmées vivent dans la forêt, ces populations autochtones vivent de la forêt et se nourrissent dans la forêt, se soignent dans la forêt, construisent leur maison avec des produits ligneux de la forêt. Ils vivent leur vie, c'est la forêt. On peut dire que la forêt, c'est le don du pygmée. Sans la forêt, le pygmée ne vivrait pas. Et par rapport au code forestier, n'y aurait-il pas conflit d'intérêts entre un train de vie normal de nos compatriotes autochtones et ces nouvelles méthodes d'exploitation forestière qui s'annoncent par rapport au code forestier. Voilà, au Café Action, nous parlons des forêts avec cette sensibilisation en vue de la mise en œuvre du nouveau code forestier. Il faut dire que la République démocratique du Congo, au moins en tout cas 50% de la forêt tropicale africaine, le pays se place donc au premier rang d'autres pays du continent pour la richesse de son patrimoine biologique et constitue un des plus importants centres de biodiversité dans le monde. Et si l'on devrait comparer la planète comme un corps humain qui a deux poumons pour respirer, le poumon gauche et le poumon droit, on pourrait dire que la forêt, le bassin du Congo, c'est l'autre poumon grâce auquel toute la planète entière peut respirer. On comprend donc que toutes les lois qui portent exploitation forestière devaient tenir compte de cette première réalité, notamment par rapport au rôle écologique de la forêt. Ensuite, tenir compte des réalités socioculturelles inhérentes aux forêts, parce que ces forêts-là sont un habitat naturel de certaines populations. Et c'est dans ces forêts-là que vivent notamment les populations autochtones, dont les pygmées. Une surexploitation de ces forêts conduirait à la destruction et même à la perturbation du train de vie de nos confrères, compatriotes pygmées. On me dit que c'est possible maintenant de parler avec M. Jean-Dédio Wasso pour seulement 3 minutes. On n'a pas le choix. M. Jean-Dédio Wasso, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes coordonnateur de Africa Capacity. Vous venez d'organiser un atelier par rapport à la mise en œuvre du code forestier avec les associations qui accompagnent les populations pygmées. La première question que je vous pose, est-ce qu'il y avait des pygmées représentés à cet atelier?
Oui, en fait, les populations autochtones pygmées sont représentées. Nous avons des associations qui interviennent ou qui accompagnent ces populations également qui ont été représentées, et essentiellement un certain nombre de populations à la base.
Est-ce que les pygmées étaient là physiquement ou ils étaient là par représentation?
Non, en fait, les associations accompagnant les populations autochtones pygmées sont constituées des membres qui sont parmi lesquels on trouve des pygmées véritables et également des gens de Bantou qui accompagnent les pygmées. Et donc, parmi les responsables, il y avait un certain nombre de pygmées et également d'autres non-pygmées. Et également, il y avait des représentants qui venaient directement de la base, qui sont des pygmées eux-mêmes.
Qu'est-ce que les pygmées ont dit par rapport au contenu du nouveau code forestier?
En fait, il était question d'abord de comprendre ce nouveau code forestier et de voir le processus qui a été mis en place depuis maintenant quelques mois par les réseaux ressources naturelles qui a sa coordination à Kinshasa en collaboration avec le SENADEP.
Mais monsieur Jean-Dédieu Wasso, il y a un petit problème, on vous entend presque plus, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez prendre en compte les droits des pygmées et les autres communautés locales, parce que ça c'est ressorti quelque part?
Oui, en fait, on essaye de prendre en considération les différents aspects, mais on se dit particulièrement les communautés autochtones pygmées ne semblaient pas représentées dans la dynamique. Leurs droits, leurs intérêts particuliers ne se retrouvaient pas dans le nouveau code forestier. Parce que, comme vous le savez, le nouveau code forestier ne parle pas explicitement des populations autochtones pygmées, mais parle plutôt de communautés locales.
Mais
donc, il n'y a rien.
Il y a quand même un problème. Les pygmées vivent de la forêt. Ils vivent dans la forêt. Et apparemment, vous ne nous avez pas dit, depuis qu'on est en train de parler ensemble, quelles ont été les exigences ou les desiderata des pygmées par rapport à la mise en application de ce nouveau code forestier.
En fait, les pygmées ne vivent pas tous dans la forêt. Si pendant longtemps les pygmées ont vécu dans la forêt et que actuellement il y a des communautés pygmées qui vivent dans la forêt, nous nous disons que très prochainement il y a des mesures d'application qui doivent être mises en place pour l'exécution de ce code forestier. Alors nous nous disons donc que c'est une opportunité pour essayer de voir dans quelle mesure les intégrer dans le processus.
Bien, on suivra évidemment la mise en application sur terrain. Jean-Didier Wasso, je rappelle aux auditeurs que vous êtes coordonnateur de Africa Capacity. Merci d'avoir été en direct sur Radio Okapi.
Ok.